Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 2 mai 2022. Nous venons de vivre les 4 mois les pires depuis 1939. Bah tiens, moi je pensais qu'on avait déjà vu pire ces 30 dernières années, mais en fait non. On parle de 4 mois, pas d'une année entière ou de 4 jours de suite, juste les 4 premiers mois de l'année. Comme d'habitude avec les statistiques, il faut surtout interpréter afin de leur faire dire ce que l'on a envie de leur faire dire. Toujours est-il que l'on vient de vivre la pire entame d'année depuis 1939. Quand on voit ce qui s'est passé les 5 ans qui ont suivi, ça donne assez envie d'aller se recoucher. Surtout quand on voit ce qui nous attend cette semaine. En me levant, j'ai regardé les futurs aux USA et j'avais l'impression d'assister à la représentation physique d'une dépression saisonnière. Vendredi dernier, les indices américains sont fait littéralement massacrer. C'est quand même pas tous les jours que l'on voit le Nasdaq en baisse de plus de 4% et le S&P 500 en baisse de 3%. Les supports du Nasdaq ont volé en éclats, celui du S&P 500 tient encore par on ne sait quel miracle et le SOX a tenté un reversal à la hausse qui a été immédiatement calmé de 2 uppercuts à la suite et l'ont envoyé au tapis pour le compte. Amazon a perdu 14% durant la séance et termine au plus bas depuis juin 2020 et plus personne ne parle du fait que c'est quand même trop cool comme action et en plus ils vont bientôt faire un split et un split c'est toujours positif pour une action. Oui, c'est toujours positif sauf quand tu te prends 15 milliards de taux sur une participation d'une boîte qui vend des voitures électriques. Et donc, malgré ce bain de sang de vendredi dernier et le fait que l'ouest des États-Unis n'a pas encore sombré dans le Pacifique suite à un gigantesque tremblement de terre, ce qui laisse un peu d'espoir, les futurs américains sont dans le coma et laissent à peine espérer une ouverture à un poil en hausse de 0,3%. On ne peut pas non plus leur en vouloir puisque la semaine qui nous attend peut nous apporter deux choses, deux choix. 1. Le cataclysme final parce que tout le monde va craquer sur les chiffres du trimestre, l'annonce de la Fed et les chiffres de l'emploi qui sortiront vendredi. 2. Le rebond de la mort qui tue parce que tout le monde va s'emballer sur les chiffres du trimestre qui ne sont pas si mauvais après tout et sur le fait que tout le reste, la Fed et les chiffres de l'emploi sont déjà dans les prix puisque nous sommes tous visionnaires dans le monde joyeux de l'investissement. En ce premier jour de trading du mois de mai, nous sommes donc tous en train de se demander ce qu'il faut bien faire et comment est-ce que l'on va s'en sortir. Il est vrai que lorsque l'on regarde ce qui nous attend, on a le droit d'avoir peur. Ça n'est pas que la Fed va nous surprendre mercredi en montant les taux de 0,5%, mais c'est surtout que l'on a tendance à surjouer la surprise chaque fois qu'on nous en parle. Vous reconnaîtrez que ça n'est pas la première fois que Powell ou Lonsega vient nous annoncer qu'il va falloir frapper l'inflation vite et bien d'un petit coup sec derrière les oreilles si on veut s'en sortir et avoir une chance de la voir me lire un de ces jours. Pourtant, à chaque fois que l'on nous a ressorti l'histoire des 0,5% de hausse, le marché s'est retrouvé sur le Titanic et a commencé à paniquer. Pourtant, ça n'est pas une surprise. Si l'on regarde les futurs sur les Fed Funds, la hausse qui sera annoncée ce mercredi ne sera que la première d'une série qui pourrait nous emmener à un niveau bien plus haut. À un niveau qui pourrait même nous donner le vertige par rapport à cette politique de taux zéro dans laquelle nous nous complaisons depuis des mois et des mois. J'espère d'ailleurs que M. Musk a pris un crédit chez ZLM pour acheter Twitter parce que si c'est flottant, il n'a pas fini de payer ni de courir derrière. Mais peu importe, on avait beau s'y attendre, beau le savoir, le fait que ça va nous tomber dessus concrètement risque de faire bizarre ou alors de faire rebondir le marché parce que c'était dans les prix. Vous l'aurez donc compris, cette semaine, nous allons mettre en place la stratégie du pile ou face. La stratégie du pile ou face, c'est l'arme absolue dans les marchés boursiers quand on ne sait plus quoi faire. Vous lancez une pièce en l'air et si c'est pile, vous achetez en revanche. Si c'est face, vous vendez. Ou l'inverse, c'est pas très important. Je sais que ça fait pas très sérieux, mais lorsque l'on regarde les choses en face et la situation dans laquelle nous sommes, on se rend compte assez rapidement que nous sommes exactement dans la même situation où nous sommes régulièrement quand on ne sait plus quoi faire. Au bord de la panique. En général, il serait plus sain de réfléchir à long terme et profiter de faire du shopping parce que c'est les soldes et se dire qu'on verra dans 6 mois quand les choses se seront calmées, si elles se calment. Mais force est de constater que le marché et la manière dont il est structuré aujourd'hui nous donnent clairement l'impression que l'on vit au jour le jour et qu'une vente de panique peut être soudainement inversée à la première nouvelle qui semblerait étonnamment bonne. Laquelle ? J'avoue que j'en sais rien. La seule chose que l'on peut se dire en ce moment, c'est que nous avons tendance à prendre les mauvaises nouvelles avec une intensité extrême et les bonnes ne sont que des détails qui nous importent peu. Prenez l'exemple de Microsoft. Microsoft est plus ou moins la seule boîte des Big Five qui a sorti des chiffres absolument fantastiques et qui ont laissé entendre que la suite de l'année ne sera rien d'autre qu'une balade dans le parc, tellement les choses vont bien pour eux. Pourtant, vous regardez le comportement du titre depuis l'annonce des chiffres, tout le monde s'en fout. On est plus concerné par l'envie de mettre fin à nos nos jours sur Amazon ou de paniquer en se disant que Google ne s'en sortira jamais, plutôt que de se dire qu'il y a quand même des choses qui sont bien exécutées dans ce bas monde. En ce moment, nous sommes plus dans la victimisation et en mode jérémiade plutôt que d'essayer de construire l'avenir en se disant que, comme d'habitude, on va finir par remonter un jour. Alors oui, d'accord, peut-être pas dans les 3 semaines suivantes, mais on sait que ça finit toujours par s'arranger. Alors moi, je suis là depuis 30 ans, et si j'étais parti racheter une ferme dans le Cantal à chaque fois que c'est parti en sucette, d'abord, ça ferait longtemps que je serais plus là, et ensuite, j'aurais probablement racheté le Cantal à moi tout seul depuis le temps. Non, parce que depuis début novembre 87, quand les clients hurlaient devant la porte de la banque pour qu'on leur rende leur argent, on ne pensait pas qu'on s'en remettrait. Quand le fonds LTCM de l'UBS, qui ne pouvait pas perdre d'argent, s'est finalement fait exploser, on ne pensait pas que l'on se remettrait. Et quand il y a eu la crise russe, que les actions financières suisses se prenaient des claques de 30%, pareil ensuite avec la crise asiatique, et là non plus, on ne pensait pas qu'on s'en sortirait. Et puis il y a eu la bulle internet, et au moment où l'on commençait à retrouver notre souffle, on nous a balancé 2 avions dans 2 tours. Et je peux vous dire que le lendemain, le Cantal ne m'a jamais paru aussi sexy de ma vie. Pourtant, on s'en est sorti, jusqu'à que les génies de la finance inventent la titrisation et nous embarquent dans la crise des subprimes. 2 ans plus tard, j'avais appris à faire du fromage, je connaissais tout de l'élevage des chèvres, j'étais prêt à partir. Pourtant, on s'en est sorti quand même, et puis il y a eu Trump, le Covid, et à chaque fois, c'est la même purée. Alors oui, c'est la merde en ce moment, il y a de l'inflation, les Russes ont bien foutu le bordel sur la planète, un peu comme les Américains le font toutes les 3 semaines, mais comme c'est eux les gentils, c'est pas pareil. Et puis les banques centrales sont sous pression, les taux vont monter, ça sera moins facile d'avoir de l'argent gratuit. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être simplement parce que j'essaie de rester résolument optimiste et qu'à chaque fois qu'on me dit qu'il faut tout vendre en mai et revenir en novembre, bien que ça ne soit pas l'envie qui manque, je me rappelle que cette théorie fonctionne à peu près bien si on a fait tout ça depuis 100 ans. Et qu'il y a de longues périodes où ça n'a pas fonctionné ou pas fonctionné très bien, comme par exemple les 20 dernières années. Je crois donc que je vais me concentrer à faire du Warren Buffett et essayer de faire de la construction de portefeuille sur un peu plus que les 14 prochaines minutes, comme on a tendance à le faire actuellement. Ce matin, l'Asie est orpheline de la Chine et de Hong Kong parce que eux ont décidé de décaler la fête du travail au 2 mai. Le Japon est ouvert et est en baisse de 0,75%, mais ce premier lundi de mai, c'est surtout le pétrole qui est dans le viseur des traders. Tout d'abord, on notera que la Chine est à nouveau en contraction et que les derniers chiffres publiés samedi dernier, pendant que vous étiez sur une terrasse entre 2 averses, n'étaient pas bons et montraient clairement que quand vous confinez tout le monde comme des poules en batterie pour éviter le Covid, c'est pas bon pour les économie. Et c'est stupide, surtout lorsque l'on voit les chiffres de la mortalité en Chine, pour autant qu'ils soient vrais. Donc vu que la Chine va mal, le pétrole baisse de 3 fois rien ce matin, parce que forcément ils ne vont plus consommer, jamais. Le baril est toujours au-dessus des 100 dollars, il se balade vers les 103, 65 en baisse de 1%, mais toujours au-dessus des 100 dollars. La Libye reprend temporairement une partie de la production et tout le monde a les yeux fixés sur l'Europe qui devrait montrer ses biceps à la Russie en annonçant un boycott du pétrole russe, mais c'est pas encore très sûr. On n'a donc pas fini de parler du baril et de l'inflation, non, parce que s'il repasse les 120 dollars dans les jours à venir, je n'ose même pas imaginer les conclusions que l'on va en tirer vis-à-vis de l'inflation. Mais je dis ça, je dis rien. L'or est à 1888 et le bitcoin est à 38 600, les supports sont enfoncés, mais personne ne vient dire que ça va à zéro, alors ça va. Côté nouvelle du jour, évidemment que on va faire très attention à tout ce que l'Europe pourrait annoncer par rapport au pétrole. Selon Barclays, un embargo sur le pétrole russe déclencherait une récession en Europe et les investisseurs sous-évaluent les perturbations de l'approvisionnement énergétique. On n'a donc pas fini de rire. Mais il y a quand même d'autres bonnes nouvelles, des vraies nouvelles, comme le méga deal que Qantas vient de signer avec Airbus, un deal à 25 milliards pour acheter une centaine d'Airbus A350 pour faire la ligne Sydney-Londres, 20 heures de vol non-stop. La commande devrait être complétée d'ici 2025, si le Covid ne repasse pas par là cet automne. Et puis ce week-end, il y avait la grande fête de Berkshire Hathaway. Buffett et Munger en ont profité pour dire que le Bitcoin et les cryptos, c'était de la daube. Et je dis de la daube pour rester poli, parce que le terme est un peu plus fort que ça. Ils ont aussi annoncé qu'ils avaient augmenté leur position en Apple et en Activision et qu'il ne fallait pas trop en rajouter sur l'inflation et que c'était pas si grave. Ce qui est intéressant, c'est que dans un monde où l'investissement long terme veut dire jusqu'à demain, vous avez Buffett qui débarque du haut de ses 92 ans et qui vient expliquer à la nouvelle génération que devenir riche en 3 heures, ça n'existe pas. Je pense qu'il va encore se faire des copains. Pour ce qui est de l'Ukraine, les USA sont en train d'injecter des milliards en Ukraine. Joe Biden vient de signer un chèque de 33 milliards pour l'armement ukrainien. C'est surtout des bons d'achat pour acheter du matos américain. Et puis pendant ce temps, Nancy Pelosi est arrivée en visite surprise à Kiev pour montrer son soutien à Zelensky et chauffer Poutine. Pour ce qui est des chiffres du jour, il y aura du monde au balcon, au-delà de BlackRock, Mosaic, Avis ou Expedia qui publieront. La semaine s'intensifiera dès mardi. On notera aussi que Swissquote et Micron publieront en Suisse. Pour les news économiques, ça sera les retail sales en Allemagne, le Seco en Suisse, le manufacturing PMI en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et dans toute l'Europe. En Europe, il y aura aussi le consumer confidence et le climat du business. Aux USA, ça sera aussi le manufacturing PMI, l'ISM manufacturing PMI et le construction spending. Pour le moment, les futurs tentent un tour de force et remontent de 0,45%, tout en sachant que mardi, la Fed va entamer son meeting du mois de mai et qu'à partir de là, on va ne parler plus que de ça. Mais je ne vais pas vous spoiler la fin. On verra ça mercredi soir. D'ici là, passez une excellente journée et on se voit demain à la même heure, au même endroit ou alors sur la chaîne Swissquote Suisse de YouTube dans pas longtemps. Très bon début de semaine à tous.